C'est une soirée spéciale pour moi ce soir, parce que pour la première fois, je vais contrôler le zapper. Mais n'ayez pas crainte, Christian est en arrière, puis si ça ne fonctionne pas, il m'a dit, écoute, je prendrai la relève. Ça me sécurise, ça me rassure. Alors, merci aussi à toute l'équipe musicale, Raphaël et compagnie. Ces beaux chants, et surtout les chants que nous avons chantés, je veux briller là où tu m'as placé. Et c'est justement notre thème pour ce soir, c'est marcher comme des enfants de lumière. C'est notre troisième message dans cette série. Et alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, et le verset 11 à 14. Éphésiens 5, 11 à 14. Et ce soir, nous allons continuer notre étude, comme j'ai dit, dans ce livre qui est rempli d'instructions pratiques pour la vie chrétienne. Ou si vous voulez, notre marche dans ce monde. On a chanté tantôt, je veux marcher dans tes voies. Alors la parole de Dieu nous démontre comment marcher dans les voies de Dieu. Et bien sûr, on marche dans les voies de Dieu, notre marche chrétienne en attendant soit le retour du Seigneur ou bien notre départ. Et nous avons devant nous ce soir notre thème, marcher dans la lumière ou comment maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que Christ nous a sortis des ténèbres à son admirable lumière, comment marcher comme des enfants de lumière? Et nous avons dit qu'il y a cinq choses qui nous permettent de savoir si nous sommes en train de marcher comme des enfants de lumière. Ah voilà, ok, cinq choses. Et nous les avons vus. Dans un premier temps, nous devrons être conscients du contraste. Autrefois, vous étiez ténèbres, Paul a dit, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, rappelons-nous toujours qu'il y a un contraste, ce que nous étions avant et ce que nous sommes maintenant. Nous devrions aussi être conscients des caractéristiques. Celui ou celle qui marche dans la lumière, la parole de Dieu nous dit, va porter du fruit. Et le fruit, nous les avons, qui sont bonté, justice et vérité. La semaine dernière, nous avons vu aussi, soyez conscients du commandement, où est-ce que Paul nous exhorte de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ce soir, nous allons voir le quatrième et le cinquième point. Au fait, je les ai combinés. Alors, il y aura juste un seul point, mais il y aura trois sous-points. Et je vous invite maintenant à lire avec moi notre texte, Éphésiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 8 pour nous remettre dans le contexte. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, quatrièmement, pour être capable de marcher dans la lumière, nous devrions être conscients de la commission. Et nous l'avons, cette commission, au verset 11b, si vous regardez encore votre texte. La commission maintenant pour nous, les enfants du Seigneur, au lieu de participer, de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Paul nous donne une commission, c'est de condamner ces œuvres infructueuses. Condamnez-les. Vous savez, quelqu'un a bien dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est ce que Paul va dire à ses croyants. Si vous ne voulez pas tomber dans les pièges du péché, ne restez pas là planté, mais plutôt mettez-vous en mode offensif. Engagez-vous dans une guerre contre le péché en le condamnant. Et nous avons une question à nous poser ce soir. Que veut-il dire Paul par condamner le péché? Alors, regardons justement un résumé de ce que nous avons vu les dernières fois, les œuvres infructueuses des ténèbres. Et nous savons que ce sont des péchés vils qui caractérisaient souvent des vies entières dans l'Antiquité. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y avait la débauche, il y avait l'impureté, il y avait la cupidité qui était l'idolâtrie. Il y avait l'occultisme, surtout à Éphèse. Il y avait l'ivrognerie, etc. Et si vous revenez aussi au verset 4, vous allez voir que Paul va ajouter les paroles grossières, les propos insensés, etc. Alors, tous ces péchés-là, ces panoplies de péchés, Paul dit qu'ils devraient être condamnés. Et là, nous avons maintenant à regarder ce terme et se demander qu'est-ce que Paul veut dire par condamner. Alors, dans le texte original, le mot veut dire dévoiler, amener avec conviction à la lumière, exposer, reprendre, trouver une faute, montrer à quelqu'un sa faute, réfuter, corriger par la parole, corriger par action ou châtier, corriger ou punir. J'ai regardé les autres versions, Bible en français courant, on va dire ceci, dénoncez-les. La Bible Darby va dire reprenez-les. Nouvelle Bible Seconde va dire dévoilez-les. Et Semeur va dire démasquez-les. Alors vous avez une idée de quoi Paul y parle quand il parle de ses œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les, dévoile-les. Dévoilez-les, reprenez-les, démasquez-les. Moi, j'ai résumé ça avec deux phrases. Dévoilez le péché. Montrez son vrai visage. Et deuxièmement, dénoncez le péché. Et c'est ce que vous et moi, si nous sommes en train de marcher dans la lumière, c'est ce que nous serons en train de faire. Et la question que nous devrons nous poser ce soir, est-ce que nous sommes en train de dévoiler le péché? Est-ce que nous sommes en train de le dénoncer? J'aimerais vous parler ici de quelques obstacles, parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a des choses, des fois, qui nous empêchent justement de mettre en application ce commandement. Dans un premier temps, ça peut être notre perception du péché. Oh, le péché n'est pas si grave que ça. Nous avons tous nos petits péchés mignons que nous chérissons. C'est comme un petit doudou là, qu'on flatte. Puis on... Bref, on peut banaliser le péché. Et si nous sommes en train de banaliser le péché, c'est sûr que nous ne serons pas en guerre contre le péché. Nous ne serons pas en train de dévoiler ou démasquer le péché. Alors ça peut être un obstacle. Un autre obstacle aussi peut être notre poutre. Vous avez le texte qui est dans Matthieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il va dire, comment est-ce que toi tu peux dire à ton frère ou l'aider ton frère qui a justement une petite paille dans son œil, tu vois son péché, mais toi, tu as aussi une poutre. Ta vie n'est pas en règle. Alors si quelqu'un a des péchés confessés, c'est sûr que cette personne-là n'est pas en train de dévoiler ou démasquer le péché. Et troisièmement, nous avons notre part. Sais-tu si le péché s'est infiltré dans l'Église? Et la personne qui est impliquée, peut-être une personne qui a de l'influence dans l'Église, ou bien quelqu'un qui a un gros portefeuille, et là on a peur parce que si on dévoile ou dénonce, mais on va dire, mais le budget, ça va manger une claque. Mais j'aimerais mieux avoir la crainte de Dieu et d'obéir à sa parole que d'avoir la crainte des hommes. Et qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Alors, selon notre texte, j'aimerais ce soir regarder maintenant trois raisons pourquoi nous devrions dévoiler et dénoncer le péché. Et dans un premier temps, c'est à cause de la nature du péché, à cause de la nature du péché. Le péché est dangereux et destructeur. Et il est dangereux et destructeur parce que le péché séduit. Si vous prenez le texte qui est dans Genèse chapitre 3, verset 5, c'est pas besoin de les tourner, mais on sait comment ce que le serpent, la parole de Dieu nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés, et comment Satan vient et il va séduire Ève. Il va lui montrer un côté de la médaille, si vous prenez du fruit défendu, vous serez comme Dieu. Et qui parmi nous n'aimerait pas être comme Dieu? Vous allez connaître le bien et le mal. Mais lui n'a pas dit toutes les conséquences tragiques qui allaient s'en suivre. Et vous savez ce qui est arrivé, Ève a été séduite, et aujourd'hui, à cause de cela, nous avons dans le monde maladie, souffrance, haine, violence, guerre, famine, catastrophe, mort physique, ultimement la mort spirituelle. Hébreux 3:13 nous dit ceci, de ne pas nous endurcir le cœur par la séduction du péché. Le péché est aussi dangereux parce que le péché nous sépare de Dieu. Dieu est la source de vie. Et le péché, comme selon Ésaïe 59:2 nous dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Parce que Dieu est trois fois saint, comme nous avons vu ce matin. Et le péché va séparer, justement, de Dieu. Et troisièmement, le péché comporte une sentence. Une sentence. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Et c'est pourquoi le péché est si destructeur et si dangereux. C'est comme une maladie. Une maladie dangereuse. Et si on ne fait rien, ça peut dévaster justement des populations entières. Et c'est la même chose aussi avec le péché. C'est pourquoi il faut le dévoiler et le dénoncer à cause de ces raisons-là, la nature du péché. Romains 6, 23 nous dit ceci, que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ici, dans le contexte, Paul semble avoir plus à l'esprit, plus que juste le péché en général. Mais le pire de tous les péchés secrets. Au verset 12, il va dire ceci, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il va aussi parler des œuvres infructueuses, des ténèbres. Et encore une fois, mettons-nous dans le contexte de ce texte. Il est en train de parler aux chrétiens qui viennent de sortir d'un style de vie, comme on dirait en bon québécois, dégueulasse. C'est une ville, Éphèse, débauché. Vous avez le temple de Diane qui est là, vous avez la grosse immoralité, vous avez l'occultisme, vous avez l'ivrognerie. Et j'ai dit, faites-vous une image, mais après j'ai dit, ne faites-vous pas une image de ce qui se passait dans ces temples d'idoles, des choses qui se faisaient en secret. Tellement abominable que Paul dit, on ne peut même pas en parler en public. Et pourquoi est-ce que ces péchés sont si abominables, si odieux. Et juste en passant, Paul il nous donne ici un conseil, parce que quand on dévoile et dénonce le péché, mais parfois il y a des péchés qui sont tellement grossiers et pervers qu'on n'a pas besoin de donner tous les détails sordides de l'affaire. Soyons équilibrés. Parce que ces choses-là n'édifient personne. Et tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous contaminer avec cela. Mais, dans ce contexte ici, Paul nous demande de dévoiler et dénoncer le péché. Et nous avons ici un principe fondamental. Plus que le péché est grave, plus qu'on essaye de faire en cachette, en secret. Dans quelques exemples, la fornication, l'adultère, le vol, le meurtre. Et on peut justement savoir où est-ce qu'une société est rendue dans sa moralité quand certains de ces péchés, qui autrefois en faisant en cachette, sont maintenant commis en plein jour. Vous savez, Jésus a dit qu'il allait venir comme voleur dans la nuit. Si on réécrivait notre Bible en 2011, le vol, ça se fait aujourd'hui souvent en plein jour. C'est monnaie courante. Et que dire du meurtre? Surtout des enfants dans le ventre de leur mère, l'avortement. Où les enfants, les bébés sans défense sont tués. Et en plus de ça, avec l'accord des autorités. On sait où est-ce que la société est rendue, quand on est rendu là. Et ces péchés qui se faisaient en secret à Éphèse, que Paul exhorte les chrétiens à dévoiler et dénoncer, sont des péchés odieux. Tout d'abord, parce que l'omniscience de Dieu est attaquée et méprisée, et c'est une insulte à Dieu. Je vous lis un texte dans Ésaïe 29, 15 qui m'a fait réfléchir. Dans Ésaïe 29, 15, Dieu a prononcé une malédiction. Écoutons bien ce qu'il dit. Malheur. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Dieu a prononcé une malédiction sur ces personnes qui vont faire leurs œuvres dans les ténèbres et dans leur tête qui disent, mais il n'y a personne qui nous voit. Et pourtant, on sait que selon Job 10, 14, Job a dit ceci, si je pêche, tu m'observes. Et dans Job 14, 16, il a dit ceci, tu as l'œil sur mes péchés. Ça devrait nous donner des frissons, de nous rappeler toujours comme Hébreux 4, 13 nous dit ceci, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu est omniscient. Et quelle insulte à cet attribut de Dieu qui voit tout et qui connaît tout pour quelqu'un d'aller dans un lieu secret et de faire des choses abominables. Et dans son esprit, il a dit, mais Dieu, il ne voit rien, absolument rien. Une insulte à l'omniscience de Dieu. Et Dieu a prononcé, comme je dis dans ce texte, une malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel et qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Combien notre prière chaque jour devrait être comme celle du psalmiste qui a dit ceci, Psaume 19, 13, qui connaît ses égarements, ses péchés? David était conscient que lui pourrait faire ce qu'on appelle des péchés secrets. Pas dans le secret, mais dans le secret de son cœur. Il dit, qui connaît ses égarements? Il y a des péchés dans mon cœur que je ne connais même pas. Il va dire à Dieu ceci, pardonne-moi ce que j'ignore. Et je pense que ça, c'est une bonne prière. Une très bonne prière, parce qu'on est capable d'avoir des choses dont nos cœurs n'est même pas au courant. Et il faudrait demander à Dieu dans sa grâce de nous les pardonner. C'est ce que le psalmiste a dit. Il dit, qui connaît ses égards? Qui est capable d'aller dans le secret de son cœur et de voir qu'est-ce qui se passe? On n'a personne. Il y a juste l'Éternel qui voit, qui peut sonder les reins et les cœurs et qui peut dévoiler cela. Et dans sa grâce, oui, souvent, il nous amène des choses puis il nous montre des choses pour qu'on puisse les confesser. Parce que quand on garde les choses dans notre cœur et on les voit à ses yeux, c'est comme encore une fois, on est en train d'attaquer à son omniscience. Deuxièmement, pour faire un péché dans le secret, comme ces personnes dans le contexte font, il faut faire violence à la conscience. Pourquoi est-ce qu'on fait un péché en secret? C'est parce que notre conscience nous dit que ce qu'on veut faire, c'est mal. C'est ça? Notre conscience nous dit, mais on veut le faire. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a été séduit. Ici, c'est différent. C'est quelqu'un qui s'en va dans le secret, en cachette, pour faire du mal. Et il le fait dans le secret parce que sa conscience lui dit, ce que tu fais, c'est mal. Mais il veut le faire pareil. Alors, pour ne pas que les autres voient, il s'en va dans le secret puis il va le faire. Il va faire violence à sa conscience. Et d'où ça vient? Mais ça vient justement du Jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. Adam et Ève ont péché, et qu'est-ce qu'ils ont fait? De conscience, on dit, vous avez fait de mal. Le texte nous dit que l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu du jardin. Et depuis ce jour, vous avez deux choses qui se passent. Soit les hommes font le mal, et ensuite ils essaient de le cacher, ou bien ils vont se cacher, puis ils vont faire le mal. Mais dans un cas, comme dans l'autre, la conscience est violée. Et ça, c'est une révélation du cœur humain qui s'attache au péché au lieu de s'attacher à Dieu. Jean 3, 19 est très révélateur. Nous dit ceci, « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Verset 20 dit ceci, « Et il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. » Et troisièmement, le péché secret révèle un cœur hypocrite et endurci. Ceux qui vont faire leur péché en secret, ils le font non devant les autres, mais en secret, parce qu'ils veulent continuer à bien paraître devant les autres. Et si vous lisez Matthieu 23, ce sont les paroles les plus dures qui sont jamais sorties du bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait devant lui un paquet du monde, les pharisiens, les scribes. Et en bon québécois, là, il les a blastés. Il les a traités de, vous lisez ceci, ce n'est pas très beau, hypocrites, conducteurs d'aveugles, insensés, serpents, race de vipères. Même il les a menacés avec la ruine éternelle dans la gêne et l'enfer. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous êtes comme des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, il a dit, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie. Et ça, c'est le mot masque, vous portez un masque et d'iniquité. Ça, c'était les pharisiens. Et vous savez qu'on n'est pas parfois mieux que les autres à cause de nos cœurs qui sont méchants. Combien c'est facile? On a entendu ce matin, Michel a posé la question, là. Si on arrive à la... Et puis, je n'accuse personne. C'est facile de jouer ce jeu. On arrive à l'église, puis il y a le beau sourire. C'est facile de porter le masque. La question que je me suis posée, et je vous pose ce soir, nous qui sommes sauvés, sommes-nous transparents? J'aime beaucoup le témoignage de l'un des fils de John MacArthur. C'était la fête des pères, puis on a demandé à l'un de ses fils de venir en avant, là, puis dire quelques mots à propos de son célèbre père, John MacArthur. Puis là, tout le monde s'attendait que le garçon dirait, « Mais mon père, c'est un bon orateur, c'est un bon écrivain, c'est un bon enseignant. » Rien de cela. Le jeune homme est venu en avant, il a dit, « J'aimerais que vous sachiez que mon père, il est vrai. L'homme que tu voyais ici, dans l'église, c'est exactement le même homme que je vois chez moi. » Mais quel témoignage. Et j'aimerais aussi que mes enfants soient capables de dire cela de moi. C'est ma prière. C'est ma prière. Quel témoignage. Deuxièmement, nous devrions dévoiler et dénoncer le péché, non seulement à cause de la nature, parce que le péché est dangereux et destructeur, mais aussi à cause de la nature de la lumière. Paul va dire ceci dans le texte, « Tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. » Et je peux vous dire que j'ai eu tellement de... j'ai lu des textes et d'autres textes et des versions, Bible en français courant, Darby, la Bible Jérusalem, Parole de vie, Parole vivante, Sema, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce texte est en train de dire. Alors, je vais vous donner une pourrie de toutes les variantes. J'appelle ça la version Bridgman. Et voici ce que j'ai sorti, traduction libre. Tout péché étant dévoilé, démasqué, dénoncé par la lumière, démontre sa véritable nature. Quand le texte y apparaît à la lumière, là, tu vas le voir tel qu'il est. Quand la lumière fait sa job, il est clair, il va te démontrer cela. Il va démontrer sa véritable lumière, nature dans cette lumière, car ce qui est capable de tout dévoiler, de tout démasquer, c'est la lumière. Et c'est pourquoi ce que Paul nous donne justement ce commandement de dévoiler, démasquer la lumière, parce qu'il dit, vous êtes des enfants de lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dévoile, elle démasque justement le péché. Et ça, c'est une grande vérité devant nous ce soir. La lumière fait sa job, elle éclaire, elle rend les choses visibles. Et ce n'est pas le péché qui est capable de faire cela. Donne l'exemple, on va dire un mensonge, ça nous arrive à nous tous. Et pour ne pas être pris, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire un deuxième pour camoufler le premier. Et là, on est dans le pétrin, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut dire un troisième pour camoufler le deuxième, etc., etc. Mais si on veut sortir justement de cet engrenage, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut exposer justement, dévoiler, dénoncer le mensonge, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est la lumière. La vérité est associée avec la lumière. Et on voit comment est-ce que la lumière alors dévoile, expose et dénonce. Et vous savez, nous avons dans la Bible, j'ai mis des exemples là-dessus, Dieu qui est la lumière par excellence. Parce que Dieu est lumière, il a promis, et c'est ce qu'il fait aussi, sa lumière dévoile tout. C'est une vérité fondamentale. La lumière éclaire, la lumière démasque, la lumière dévoile. Et vu que nous avons affaire avec un Dieu qui est lumière même, l'essence même, il n'y a absolument rien dans tout cet univers qui ne sera pas dévoilé et démasqué. Impossible devant Dieu. Et c'est ce qu'il a promis de faire. Je vous lis deux textes. Ecclésiaste 12, 16, car Dieu amènera toutes choses en jugement au sujet de ce qui est caché, soit du bien, soit mal. Dieu va amener toutes choses en jugement parce qu'il est lumière. Et la lumière, par sa nature, éclaire, dévoile, révèle. Et Dieu va amener toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Jésus a dit dans Luc 12, 2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Et la Bible est remplie d'une couverture à l'autre. Des personnes qui ont eu le péché dévoilé devant Dieu. Et je vous donne quelques exemples ici. Vous avez Adam et Ève. Ça commence là. Ils ont péché. Et Dieu s'en va à leur rencontre. Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait? Ils ont essayé de se cacher. Loin de l'éternel Dieu. C'est insensé. Dieu est lumière. Il voit tout. Il sait tout. Et le péché d'Adam et Ève ont été dévoilés. Je n'ai pas mis là-dessus, mais il y a aussi Caïn qui a tué son frère. Et remarquez-vous bien qu'il n'a pas fait ça devant ses parents. Le texte nous dit que quand ils étaient dans les champs, il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Et encore une fois, Dieu lui a demandé, « Où est Abel, ton frère? » Il dit, « Sais-tu moi, comment dire mon Québécois? » Il dit, « Non, le sang de ton frère écrit jusqu'à moi. Son péché a été dévoilé. » Nous avons aussi les frères de Joseph. Ils ont fait ça en cachette. Ils ont vendu le frère comme esclave en Égypte. Ils ont pris un animal, ils l'ont tué, ils ont montré ça à son père. Il a été mis en pièces. Oh boy, Joseph est mort. Puis on est tellement bouleversé et tristé avec ça. 20 ans plus tard, le péché les a rattrapés. Là, ils sont dans le pétrin, ils sont en Égypte. Ils sont devant Joseph. Et là, ils ont dit ceci, « Nous avons été coupables envers notre frère. » Dieu les a ramenés à ce point-là. Avant que Joseph se révèle, ils ont passé un mauvais quart d'heure, mais le péché les a rattrapés même 20 ans plus tard. Nous avons vu aussi la semaine dernière Achan qui avait convoité justement un vêtement puis de l'argent, puis il avait caché ça dans sa tente, pensait que personne ne voyait. Dieu a dit, Israël a péché. Ils ont pris les choses qui ont été dévouées par interdite. Et quand ils ont tiré au sort, mais le sort est tombé sur une tribu, famille, et Achan s'était dévoilé. Et que dire de David? Que dire de David? L'adultère en secret. Il fait tuer le mari de Bathsheba, Uri. Et il a camouflé ça comme si c'était un acte de guerre. Il a dit à Joab, mets-le dans le où est-ce qu'il va avoir les plus vaillants hommes et retirez-vous de lui pour qu'il soit frappé, qu'il meure. Et quand quelqu'un est venu dire, mais écoute, on n'a pas été sages, on a été attaqués, puis il y a quelques-uns de tes hommes qui sont morts, puis Uri est mort aussi, David, oh, bof, 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 c'est pas grave. Là. Tantôt l'épée dévoire un autre, tantôt il dévoire l'un, puis... Ne t'inquiète pas, Job, sois un homme, puis envers sa vie. Dieu a envoyé Nathan avec une histoire, avec la brebis, ainsi de suite. Et là, il regarde droit dans les yeux, puis il dit, tu es cet homme-là. Il venait juste de prononcer une sentence de mort sur lui-même parce qu'il était fâché. Il dit, l'homme qui a fait cela, là, il devrait mourir. Le prophète a dit, tu es cet homme-là. Dévoilait son péché. Gehazi aussi, un autre qui pensait qu'il pouvait se cacher des choses. Il est allé voir Naaman après qu'il a été guéri de lèpre. Et là, il a dit, OK, il y a des visiteurs qui sont venus chez mon maître, ils n'ont rien à manger, tout ça, mais tu peux donner de l'argent. Et puis là, il revient, puis le prophète a dit, Gehazi, où étais-tu? Il dit, oh, bon, faut aller nulle part. Il dit, non, mon esprit m'a dit que tu étais parti. Et la lèpre de Naaman s'est attachée à Gehazi. C'est un punicien. Et à part, dans la Bible aussi, il y a des cas de Jonas, Judas, Ananias et Saphira, et j'en passe. Juste pour vous dire qu'ici, que Dieu est lumière, et tout, absolument tout, sera dévoilé devant lui. Et si ce n'est pas dans ce monde, ça va être dans le monde à venir. deux applications pour le pécheur. Nombre 32-23 nous dit ceci: sachez que votre péché vous atteindra. Et dans Apocalypse 20, nous voyons les morts qui furent jugés. Dieu va ouvrir les livres et tout est écrit, tout est écrit, tout est là. Les livres sont ouverts et les morts sont jugés selon ce qui est écrit dans ces livres. Pour le croyant, nous qui sommes sauvés, nous allons paraître devant le tribunal de Christ. Et Paul va dire ceci: c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, que ce soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Quelle motivation pour nous alors? Tout sera dévoilé devant le Seigneur un jour. Et quelle motivation pour vous et pour moi de marcher dans la lumière, de demeurer dans la lumière, de venir constamment à la lumière, à la parole de Dieu, pour que cette lumière nous éclaire, nous enseigne, nous convainque, nous corrige, nous instruit. 2 Timothée 3,16. Et quand nous péchons, de confesser nos péchés pour demeurer encore dans la lumière. Vous savez, la Bible nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et je ne pense pas que je suis arrivé là. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Là. Venez me voir et dites-moi votre secret. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire cela? Et moi, j'ai pensé à cela, je me suis dit, écoute, si on n'est pas capable d'aimer Dieu de tout notre cœur, de notre âme, notre pensée, notre force, c'est parce qu'il y a des choses, des idoles secrètes qui sont dans notre cœur. Et nous avons besoin, comme j'ai parlé tantôt, de nos cœurs, nos fautes cachées. Nous avons besoin aussi de demander au Seigneur de nous démontrer justement nos idoles secrètes, de les dévoiler par sa lumière afin que nous puissions s'en débarrasser et d'être capable justement d'être plus en mesure de mettre en application, en pratique ce commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Un beau texte dans Proverbes 28, 13, 14: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Une deuxième raison aussi pour laquelle on dévoile et dénonce le péché: la lumière, la nature est claire et c'est ce que Dieu va faire, mais aussi c'est seulement la lumière qui peut faire ce job-là. La lumière le fait, Dieu le fera, mais dans ce monde actuel, le croyant, vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Et si on n'éclaire pas, si on ne dévoile pas, si on ne dénonce pas, qui va le faire? Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 14: vous êtes la lumière du monde. Et après cela, il a dit: personne n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, Matthieu 5, 15. On le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors ça, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi on dénonce, on dévoile le péché. Parce que nous sommes justement la lumière du monde et c'est notre responsabilité. Et vous savez, les enfants chantent « Ma petite lumière, il faut qu'elle éclaire ». Mais les adultes aussi devraient chanter ça. Notre grosse lumière, il faut qu'elle éclaire. C'est notre responsabilité. J'aimerais juste rapidement parler de deux choses ici. Malheureusement, comme j'ai dit la semaine dernière, parfois le péché s'infiltre dans l'Église. Ça, c'est une réalité. Sinon, on n'aurait pas Matthieu 18 dans la parole de Dieu. Et quand on dévoile et dénonce le péché, Matthieu 18 nous dit comment faire. Tu vas voir ton frère, si ton frère a péché, tu vas le voir, tu vas le reprendre. Et en passant, le mot « reprendre » là, c'est pas aller là avec un bâton de baseball là, puis tu dis Taup, taup. T'as péché, espèce 2, whatever. Là. C'est pas ça. Le mot, reprend là, c'est le même mot ici que nous avons ici. Le même mot dans l'original, dévoiler et dénoncer. Ça veut dire que tu vas là avec la parole de Dieu. Tu vas là avec la lumière que tu es et que tu possèdes et tu démontres à ce frère ou cette sœur son péché avec la lumière. Reprendre-le, ça veut dire dénonce, dévoile. Et ça, c'est des actions. Et la Bible nous donne un processus. Il n'y a pas de problème avec ça. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu n'écoutes pas, mais tu prends les témoins. Puis s'il n'écoute pas les témoins, mais tu dis à l'église. Puis s'il n'écoute pas l'église, mais là, il est où? Bah, il est rendu loin. Là, c'est la discipline. Mais j'aimerais aussi parler de l'attitude. Comment est-ce qu'on dénonce et on dévoile le péché? Vous savez, dans 1 Samuel 1:20, il y a le cas de Saül. Saül vient d'être tué, Jonathan aussi est mort. Et là, David, il va composer un chant funèbre. Et dans ce chant funèbre, on voit le cœur de David. Il aurait dû être dans la joie. Yes, mon meilleur ami, mon pire ennemi, Saül qui voulait le tuer, est mort. Ah, que je suis donc content. Mais vous savez, la défaite d'Israël par les Philistins était aussi la défaite de David. Pourquoi? Parce que David voyait Israël comme une nation, une unité dans la nation. Et quand Israël a subi une défaite cuisante par les Philistins, David, au lieu de réjouir du fait que Saül était mort, son pire ennemi était mort, il a dit, écoute, c'est une journée sombre pour Israël. Ne dites même pas cette nouvelle dans les villes des Philistins parce qu'eux autres, ils vont justement se réjouir. Son cœur a été brisé par le fait que sa nation avait subi une défaite. Et c'est la même attitude que nous devrions avoir quand on va voir quelqu'un ou bien le péché est dévoilé dans l'église, quelqu'un qui est tombé dans le péché. Ce n'est pas une question qu'il a péché. Mais il, c'est qui? C'est notre frère. Nous sommes un en Jésus-Christ. Le corps de Christ, c'est un. Et quand quelqu'un tombe dans le péché, dans l'église, c'est notre péché. Et si vous lisez les textes comme Daniel 9:5 et Néhémie, ce sont les hommes de Dieu qui ont un témoignage impeccable. Daniel, c'est un homme de Dieu. Et pourtant, il va devant le Seigneur, il va prier, il va dire, crois, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous n'avons pas été fidèles. À nous, la confusion de face. Il va s'humilier parce qu'il voyait l'unité du corps, et il y avait une bonne attitude face au péché, justement, de son peuple. Et que le Seigneur nous donne aussi d'avoir cette même attitude quand quelqu'un parmi nous tombe dans l'Église, que nous pouvons nous humilier devant le Seigneur et dire, c'est notre péché parce que le corps de Christ est. Et nous sommes tous affectés. Et c'est une honte. Ça fait blasphémer les ennemis de Dieu. Dans le monde, deux choses qui devraient nous caractériser, c'est le témoignage silencieux. Et vous savez, de la lumière du monde, votre façon d'agir dans le monde, votre façon d'agir à l'école, votre façon d'agir au travail, le respect que vous avez pour votre patron, vos professeurs, la façon dont vous habillez, vous n'aurez même pas parfois besoin de dire quoi que ce soit. Et ça, ça va être une condamnation. Ça va reprendre et ça va dévoiler justement les inconvertis qui sont autour de vous. Jusqu'à quel point qu'ils seront mal à l'aise dans votre présence, parfois. Et même s'ils ont une conscience, ceux qui sacrent, qui blasphèment, souvent ils vont arrêter parce qu'ils savent que vous êtes chrétien. Ça, c'est une manière aussi de dévoiler puis de dénoncer. Mais aussi, il y a le témoignage verbal et l'évangile. Vous savez, il faut trouver un équilibre. Parce que le témoignage silencieux a ses limites. Si on ne dit rien contre le mal, c'est sûr que c'est l'encourager. Mais allez pas à l'autre extrême. Si d'aller devant une clinique d'avortement, là, puis crier des bêtises aux médecins qui rentrent pour faire les avortements, ou même prendre des fusils puis tirer là-dessus. Ça, c'est l'autre extrême. Et je me suis posé la question, si tu veux changer le mal qui est dans la société, le péché qui est là, qu'est-ce que tu peux faire? Mais ce mal qui est là, ça vient des cœurs de l'homme. Et change les cœurs des individus et tu changeras la société. Ça, c'est la clé. Et nous avons la clé. C'est l'évangile de Dieu. Et quand l'évangile est prêché, et quand les cœurs se convertissent, mais les sociétés changent aussi. Et vous pouvez lire les histoires des grands réveils en Angleterre, en Écosse, partout dans le monde, où le Saint-Esprit a travaillé de façon incroyable. Ce n'était pas longtemps là, avant que les maisons de débauche étaient fermées. Les gens ont jeté les fétiches, leur rituel, tout ce qui était abominable a disparu parce que les cœurs ont été changés. Et qui sait, peut-être au Québec, le Seigneur un jour aussi va nous accorder un réveil. Mais qu'importe, j'aime beaucoup le texte dans 1 Pierre 3,15, que nous soyons toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Et rapidement, je termine avec le troisième point. C'est parce que le texte nous dit que Christ va éclairer, dévoiler et dénoncer le péché parce qu'il y a une promesse ici dans ce texte. Tout n'est pas négatif. Il y a une promesse ici, c'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts et Christ t'éclairera. » Qu'est-ce que Paul voulait dire par cela? Simplement que vous et moi, nous avons la possibilité, avec la lumière de Christ qui brille en nous, de projeter cette lumière vers le pécheur, celui qui dort, celui qui est dans les ténèbres. Et parce que cette personne-là voit ta lumière et son péché est exposé et dévoilé, ça peut l'amener justement à désirer ce que tu possèdes. Il se réveille. Moi, je n'ai pas ce que vous avez. Et il se relève pour dire, mais peux-tu me dire pourquoi tu es différent? Et il peut avoir aussi une révélation. C'est une belle promesse, c'est un encouragement pour nous dire, écoute, quand vous faites et vous marchez dans ce monde en tant que lumière du monde, comme des enfants de lumière, sur votre route, certainement le Seigneur va vous permettre de, oui, dénoncer, dévoiler, mais en retour aussi, éclairer les gens. Et par votre témoignage et par ce que vous dites, et par la lumière de Christ qui brille en vous, d'autres personnes aussi puissent venir à la lumière. Et quel beau verset que nous avons, qui est dans 2 Corinthiens 4-6, où nous lisons ici que Dieu fera briller la lumière dans son cœur, ça c'est l'inconverti, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Par votre témoignage, par le fait que vous marchez comme un enfant de lumière, Dieu peut se servir de vous. Christ peut éclairer quelqu'un qui a mis sur votre chemin. Et je termine avec juste une petite application. Vous savez, il y a l'Expo de Trois-Rivières. Ce matin, Robert Vincent nous en a parlé de cela, et c'est une belle occasion. Ça, c'est l'Expo agricole, et là, il va y avoir l'Association des fermiers chrétiens de Québec, du Canada, qui vont être là. Et quelle belle occasion d'être là. Si vous avez le temps et vous avez aussi la disponibilité de participer dans cet événement et de partager justement la lumière pour que Christ, à travers vous, puisse éclairer les gens. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Tu nous as demandé dans ta parole de marcher comme des enfants de lumière. Merci que nous avons ta lumière en nous. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Christ a dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Seigneur, ma prière pour nous tous, pour moi, le premier, c'est que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils te glorifient. Te glorifie par une vie transformée, parce que ceux qui nous voient aller, ceux qui voient notre témoignage, dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur, tu vas les attirer à ta personne. Tu vas les transformer par ta parole, qui est la lumière. Et tu feras d'eux des adorateurs. Et par ce fait même, ils vont glorifier ton nom. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, et que nous soyons de ceux qui marchent à ta suite, dans ta lumière. Pardonne nos fautes, même nos fautes cachées. Sonde nos cœurs et nos reins. Révèle-nous ce qui te déplaît, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur, dans ta lumière. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée.